Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a un Dieu qui est fan des maths. Vous avez remarqué que Dieu est fan des maths ou pas ? Non ? Et plus précisément, en fait, parce qu'avec Dieu, il est toujours question de foi, F-O-I, ou de foi, F-O-I-S, hein, il est question de multiplication avec Dieu. Et quand Dieu parle, s'adresse à Adam et Ève, après la création, il leur dit « croissez, multipliez, hein, multipliez-vous ». Mais il ne s'arrête pas là, il n'a pas donné que ça à Adam. Quand il a renouvelé son alliance avec Abraham, il a parlé de quoi ? Tu es tout seul, mais je te donnerai une descendance, une postérité que tu ne pourras pas compter. Je vais multiplier ma bénédiction pour toi. Dieu multiplie. Et puis il continue à le faire encore. En Jésus, quand il dit aux disciples, ils sont que 12, hein, je rappelle, je vous donne toutes les nations. Faites de toutes les nations des disciples. Multipliez-vous, vous n'êtes que 12, mais multipliez. C'est la terre entière qui est pour vous. Et donc, il y a vraiment une dimension de multiplication pour Dieu. Dieu est un Dieu qui multiplie et qui multiplie en permanence. C'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il veut faire aussi avec nous. Et je voudrais parler ce matin de quelque chose, le fait que Jésus, il appelle des individus. Effectivement, Jésus, il dit « Toi, suis-moi ». Mais pour placer tout de suite ces individus-là dans une dimension qui est communautaire. Parce que la dimension de la multiplication, elle est communautaire. Et c'est vraiment le cœur de mon message que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est ça. Le fait que Jésus est mort pour nous, Jésus est mort pour toi individuellement. Il a pris tes péchés, il a porté tes péchés. Et puis on l'a dit ce matin, il nous a appelés en tant qu'individus. Il nous appelle à le suivre, il nous dit « toi, suis-moi ». Mais le fait de répondre à cet appel-là, le fait de répondre à l'appel de Jésus-Christ, nous place automatiquement, ça implique ça, d'être planté dans la communauté des croyants. Et on ne peut pas dissocier, on ne peut pas dire « j'ai été appelé par Jésus-Christ, il me dit de le suivre, Jésus m'a sauvé, il est mort pour moi », et nier de l'autre côté le fait d'être planté dans la communauté. Ça appartient au salut. Ça appartient au salut. Et c'est de ça dont je voudrais parler ce matin. Jésus l'a fait quand il a appelé les 12. Il est monté sur la montagne, il a appelé ceux qu'il a voulu et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12, pourquoi ? Pour les avoir avec lui. Voilà la première communauté ici, dans le Nouveau Testament. Pour les avoir avec lui. Et puis pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Jésus ne nous rassemble pas juste pour nous rassembler, il nous rassemble pour multiplier. Et il y a une règle à apprendre ce matin. Et si vous retenez que ça de mon message ce matin, vous avez retenu l'essentiel. Jésus nous dit « toi, suis-moi ». Il nous appelle à lui de manière individuelle. Ce n'est pas quelque chose de communautaire, ce n'est pas quelque chose d'impersonnel. C'est vraiment toi. Il est venu chercher ton cœur. Il est venu te chercher toi parce qu'il t'a créé toi. Avec toute ton individualité, avec tout ce que tu es. Mais en Jésus, ta mission, elle n'est pas personnelle, elle devient communautaire. Notre mission devient communautaire. Jésus, il a dit à Pierre, « Toi, suis-moi. » Et puis ensuite, il a dit, « Allez, toi, suis-moi. » Mais tous ensemble, allez, allez gagner le monde. Allez. Et on va parler de cette dynamique-là ce matin. Quand Jésus, il a dit aux disciples d'aller, de multiplier, qu'est-ce qu'il a fait après ? Il est monté au ciel. Et puis il leur a dit, je vous enverrai quelqu'un, attendez-le, attendez celui que j'ai promis. Et puis effectivement ils attendent, ils sont là tous en acte 2, ils sont en train de prier tous ensemble dans la maison pendant plusieurs jours. Et puis acte 2, ce jour-là, un seul jour, l'Esprit descend sur les disciples. Le feu descend du ciel, il descend sur chacun, des langues de feu, et puis l'Esprit les pousse dehors. Il les pousse à aller prêcher, il les pousse à aller évangéliser dans la rue. Et ils parlent, et ils ne s'en rendent même pas compte, mais ils parlent dans plein de langues différentes. L'Esprit fait des choses complètement incroyables avec nous. Et puis heureusement qu'il n'y en avait pas qu'un seul qui prêchait ce jour-là, parce qu'ils ont pu prêcher dans plein de langues différentes. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Qu'est-ce qui s'est passé un seul jour ? 3000 conversions. 3000 personnes qui ont dit « oui, je te suis ». 3000. 3000 qui ont dit « toi, suis-moi ». Oui, ça, je l'entends dans ma langue. J'entends, je veux suivre Jésus-Christ. Et donc, ils ont répondu à l'appel « toi, suis-moi ». Mais lisons ce passage d'acte 2. pour voir qu'est-ce qui se passe exactement à la fin. Donc ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Amen, gloire à Dieu. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain, à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux, comme nous encore aujourd'hui. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Et cette dernière phrase, le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Allez. Ces 3000 qui ont répondu à Jésus, oui, je veux te suivre. Ces 3000, ils ont été plantés dans une communauté. Et ça n'a pas été une démarche personnelle de leur part. Ce passage, il est clair. Dieu ajoute. Dieu ajoute à la communauté. Et qu'on le veuille ou non, qu'on le réalise ou pas, le fait de suivre Jésus fait que Dieu nous ajoute dans la communauté des croyants. Dieu sauve et Dieu ajoute. Alors ce passage, il nous décrit vraiment les tout premiers jours, des tout premiers chrétiens. Et il y a un élément central qu'on y voit déjà se dessiner. Vous avez une idée ? L'Église. La communauté des croyants. Et on voit vraiment dans ce passage que ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose que l'homme a créé. Et j'aimerais vraiment poser ça ce matin. L'Église, l'Église avec un grand E, ou alors l'Église locale, n'est pas une invention de l'homme. Elle n'est pas l'invention de l'homme, elle n'est pas l'invention des chrétiens qui veulent se retrouver ensemble. Elle est le plan de Dieu. Elle est le plan de Dieu. Vous l'avez, cette église ? Dans la suite, programme des apôtres, pour répondre à la mission que Dieu leur a donnée, allez et faites de toutes les nations des disciples, quel était leur programme ? Un seul. L'Église locale. Un seul. Il n'y a pas eu d'autre plan et il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Le seul programme des apôtres pour répondre à la mission de faire de toutes les nations des disciples, c'est l'Église locale, les amis. Le seul plan du Nouveau Testament pour toucher les nations tout entières, il n'y en a pas d'autre, c'est l'Église locale. L'Église locale, notre communauté. Et ce n'est pas étonnant, cette dimension de peuple choisi, Dieu, il l'a pas. C'est pas un sentiment nouveau qui est né après la mort de Christ. Depuis le départ, on le voit. J'ai choisi un peuple, Israël, sur lequel je vais régner. On en a parlé ce matin encore. Il se rappelle comme notre roi, le roi de David, celui qui règne sur un peuple de toute éternité et pour l'éternité encore. Et c'est lui la tête de l'Église, et c'est lui qui règne aujourd'hui. Mais cette dimension de peuple, cette dimension de communauté qui est extrêmement forte dans le peuple d'Israël, elle est une réalité tangible pour nous. C'est une réalité tangible. L'Église n'est pas un concept, l'Église, elle est concrète. Et elle est tous les jours. Alors les apôtres, on l'a dit, c'est leur programme. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont de ville en ville, on les voit, ils implantent des églises, ils vont visiter des églises qui sont là, ils vont visiter des groupes qui se réunissent dans les maisons, et puis ils rassemblent plusieurs groupes qui se réunissent partout et ils encouragent. Et toutes les lettres de Paul ne sont pas adressées à des croyants, elles sont adressées à des églises. Elles sont adressées à des églises. C'est ça qu'ils font. Il n'est pas question de chrétiens isolés que les apôtres vont visiter. Il est question d'église. Il est question de communauté, d'église au pluriel, de communauté de croyants qui se rassemblent chaque jour dans les maisons, qui rompent le pain ensemble, qui louent Dieu, qui célèbrent ce qu'il fait, qui sortent dans la rue et qui annoncent son évangile parfait. Et donc, le travail des apôtres consiste à édifier, à faire grandir ces disciples qui se retrouvent, et à faire qu'il y en ait de plus en plus. C'est une dimension de multiplication qu'il y a là aussi derrière dans leur travail. Et dans l'Apocalypse, si on va vraiment tout au bout du bout, on voit que Jésus, il fait quoi? Est-ce que Jésus s'adresse à la somme des croyants? Est-ce que Jésus s'adresse à la foule des croyants? Jésus s'adresse aux églises. Jusque-là, Jésus s'adresse à l'église. Église de Laodicée. Voilà ce que j'ai à te reprocher et voilà combien ce que j'apprécie chez toi, ce que tu dois sauver, ce que tu dois garder. Et pour plein d'autres encore. Et on en a parlé aussi ce matin. Merci pour ta prière. Jésus revient pour quoi? Est-ce que Jésus revient pour moi? Est-ce que Jésus revient pour vous? Est-ce qu'il revient pour nous? Est-ce qu'il revient pour les croyants? Non. Jésus revient pour son Église. Il revient pour son Église. Il est question de noces, il est question d'époux, il est question d'épouse, il est question des noces de l'agneau, il est question d'un festin entre Jésus et son Église, qui est la communauté des croyants. Je suis l'Église, j'en fais partie, vous aussi, nous sommes l'Église. Mais Jésus ne revient pas pour une espèce de foule d'individus, il revient pour ce que ensemble nous sommes, l'Église. L'Église. Il y a une dimension de plus que juste être chrétien et fréquenter d'autres chrétiens. L'Église, la Bible nous parle de comment l'Église doit se préparer pour le retour de son époux. Elle doit se préparer, elle doit être prête. L'Esprit le fait, mais il ne le fait pas sans moi. J'ai aussi une responsabilité de préparer l'Église. Je suis l'Église, je dois me préparer, je dois vous préparer. Et c'est ce qu'on fait tous ensemble et c'est ce qu'on doit continuer à faire. Et il y a peut-être une dimension encore plus grande et encore plus profonde à découvrir. Et c'est ce que j'aimerais éveiller chez vous ce matin, de réaliser à quel point nous devons préparer l'Église, édifier l'Église. Parce qu'il n'est pas question de nous en tant qu'individus, mais il est question de nous en tant que peuple de Dieu. Et j'aimerais poser ça. On ne peut pas saisir... Ça marche pas ? Voilà. On ne peut pas saisir correctement la doctrine du salut sans y inclure la dimension de l'Église locale. Je m'arrête un moment là-dessus. On ne peut pas saisir la doctrine du salut sans y inclure la dimension de l'Église locale. Marquez-le. Si vous prenez des notes, notez-le. C'est important qu'on s'imprègne de ça. Il y a tellement d'individualisme dans notre société aujourd'hui, on pense tellement par nous-mêmes qu'on oublie. On oublie. Et on pense à la moitié du chemin. Cette première moitié où effectivement le salut me concerne. Oui, parce que Jésus est venu me sauver en tant qu'individu. Mais si je ne comprends le salut que au travers de ça, il me manque le plus important. Il me manque le plus important. La dimension du peuple, la dimension de l'Église locale et la dimension, la Bible en parle beaucoup, du corps. Nous sommes le corps de Christ, donc Christ est la tête. On est bien d'accord, c'est lui la tête. On est bien d'accord que tout tend vers lui et pas vers nous et que l'objectif, la finalité n'est pas l'Église, c'est lui, toujours lui. Mais nous sommes le corps de Christ et ça veut dire des choses. Regardez dans Romains, chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. Alléluia. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et nous avons des dons de la grâce différents que dans sa bonté, Dieu nous a accordés. Alléluia. Gloire à Dieu pour la différence. Gloire à Dieu pour la différence. Gloire à Dieu pour la complémentarité. Gloire à Dieu qu'on ne soit pas tous des mains ou qu'on ne soit pas tous des pieds ou qu'on ne soit pas tous des estomacs. Si on était tous des mains, mais comment on ferait pour digérer? Si on était tous des yeux, comment on ferait une fois qu'on a vu les choses pour aller les toucher? Et si on était tous des mains, comment est-ce qu'on pourrait se déplacer? Voici à la limite sur les mains. Mais on a besoin les uns des autres. Et ce passage, il dit quelque chose. Il y a un point sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête ce matin, c'est nous sommes membres les uns des autres. Et cette dimension, elle est importante. On comprend assez facilement dans le salut et dans le fait de donner sa vie à Christ que oui, je suis membre de Christ quelque part. Je suis en lui, je suis caché en lui. Son amour me couvre, il a racheté ma vie, il vit en moi, je suis membre de Christ. Et on oublie parfois, qu'est-ce que ça veut dire d'être membre les uns des autres ? Je ne suis pas seulement en Christ, je suis aussi relié naturellement par vous tous, relié à vous tous, les uns les autres. Dans le Nouveau Testament, il y a une quarantaine à peu près de mentions les uns les autres. Il y en a plus d'une trentaine qui nous exhortent sur des points les uns les autres différents. Et j'avais juste envie ce matin de vous lire ces différentes choses auxquelles nous sommes exhortés, qu'on puisse s'imprégner, que ça nous donne des idées peut-être de ce à quoi peut ressembler l'Église au travers de ce les uns les autres. Alors, on est tous appelés effectivement à être membres les uns des autres. Mais on a aussi ce commandement-là. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Vivez en harmonie les uns avec les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Prenez soin les uns des autres. Servez-vous les uns les autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Soyez patients les uns avec les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Chantez les louanges de Dieu les uns avec les autres. Regardez-vous les uns les autres comme plus importants. Dites la vérité les uns aux autres. Consolez-vous les uns les autres. Poursuivez le bien les uns pour les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres. Exercez l'hospitalité les uns pour les autres. Soyez humbles les uns envers les autres. Édifiez-vous les uns les autres. Combien ce « édifiez-vous » est important. Exhortez-vous les uns les autres. Attendez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Excitez-vous les uns les autres à la charité et aux bonnes œuvres. Veillez les uns sur les autres. Ne vous jugez pas les uns les autres. Ne vous détruisez pas les uns les autres. Ne vous enviez pas les uns les autres. Ne vous haïssez pas les uns les autres. Ne parlez point mal les uns des autres. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Quand la Bible est à ce point prolixe sur un thème, quand la Bible foisonne d'exemples, foisonne d'incitations, il y a un sens très clair. Il y a un sens très clair que le Seigneur nous fait passer un message puissant. Les uns les autres n'est pas une option. Les uns les autres. Développons. Moi, je remercie Seigneur. Je remercie pour la communauté, la fraternité, l'esprit de famille qu'il y a ici. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je vous remercie chacun pour ce qu'on plante les uns dans les autres, dans cette assemblée. Mais je crois à plus encore. Moi, je crois à encore plus. Il y a une dimension peut-être encore plus profonde, encore plus large, encore plus longue de ce les uns les autres que nous pouvons vivre ensemble. Les exhortations sont larges dans les uns les autres. Peut-être qu'on peut encore grandir dans le fait de s'édifier les uns les autres. Répondre à l'appel de suivre, hein, nous conduit les uns vers les autres. Et vraiment, j'aimerais, donc par rapport à ce les uns les autres, vous interpeller, nous interpeller sur notre responsabilité aujourd'hui de répondre à ce les uns les autres. J'ai une responsabilité de servir à l'édification les uns des autres. On a dit que l'Église, c'était un corps avec des membres qui étaient différents, qui étaient complémentaires. On a dit qu'on ne peut pas tous être des yeux, on ne peut pas tous être des mains, un estomac, un poumon, des oreilles. Et il faut accepter et il faut cultiver le fait que nous ne sommes pas pareils. Nous sommes effectivement différents les uns des autres. Et c'est bon, c'est bon, c'est bon. On travaille souvent sur quel est mon appel, quels sont mes dons, Et effectivement, c'est bon, c'est nécessaire. Mais les dons que l'Esprit donne ne sont pas pour soi. La Bible, elle est catégorique. Les dons sont pour l'édification du corps. Mais si je suis tout seul, si je ne suis pas planté dans un corps, si je relationne avec personne, je peux avoir les meilleurs dons du monde, ils vont servir à qui? Ils vont servir à quoi? Quelle va être la finalité? Combien notre responsabilité est grande et simple en même temps. Ce n'est pas une charge que je mets sur nos épaules ce matin, c'est juste une douce pression. Nous avons une responsabilité d'édifier le corps. Ça fait partie de notre mission en tant que chrétien, c'est attaché à la réponse que nous avons donnée à cette question du « toi, suis-moi ». Oui, ok, Jésus, je te suis, ok, ben automatiquement j'ai été planté dans une communauté et j'ai une responsabilité d'édifier cette communauté avec ce que je suis, d'édifier cette communauté par mes dons, d'édifier cette communauté par mon enthousiasme, ma capacité à accueillir, à inviter, à recevoir. Il y a tellement, 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 tellement de choses que nous pouvons faire. Et c'est le plan de Dieu, les amis. C'est le plan de Dieu pour nous que nous vivions ensemble et que nous servions ensemble notre communauté et que nous soyons servis par notre communauté. Il y a une dimension d'aller et retour forte et puissante. Et Dieu grandit et multiplie, enfin fait grandir et fait multiplier l'Église au travers de ça. C'est toute une dynamique dans laquelle il y a de la multiplication. Je vous parlais que Dieu était un Dieu des maths, un Dieu de multiplication, mais l'œuvre de la multiplication, on le voit dans tout le Nouveau Testament et tout le travail que font les apôtres. Je vous défie de trouver autre chose. Ils ne font que ça. Ils édifient l'Église. Pourquoi ? Pour que l'Église grandisse, pour que l'Église croisse, pour que l'Église se multiplie. Pourquoi ? Pour que l'Église soit mieux, soit en meilleure santé ? Oui. Mais pour ? Pour qu'elle implante encore, pour qu'elle aille, pour qu'elle proclame encore plus la bonne nouvelle, et pour qu'elle ait encore plus d'impact dans les communautés, pour que ceux qui n'ont pas encore entendu l'Évangile, eh bien, il y ait des églises qui soient plantées là aussi. Ils ont commencé à Jérusalem. Jérusalem seulement. Que Jérusalem ! Il a fallu que Dieu vienne parler à Pierre, lui donne une vision pour lui dire mais les païens aussi, cette bonne nouvelle, elle est pour eux. Et ils ont entendu ça, ils l'ont saisi et ils se sont réunis à Jérusalem, ils en ont parlé, ils ont fait un concile. Et puis heureusement, la sagesse de Jacques, elle a dit oui, c'est juste, ok, il faut y aller. Et ils y sont allés et ils ont commencé ils étaient tous ensemble, ils auraient pu rester juste tous ensemble parce qu'ils étaient bien. Mais non, ils avaient saisi que cette vision, elle était plus grande, elle dépassait juste le fait que l'église locale soit bien ensemble. Et cette église locale, elle a planté d'autres églises locales. Il y a des équipes qui sont parties ensemble et ils ont implanté là. Puis ensuite, ils ont encouragé, ils ont visité, ils ont fait des lettres, ils ont dit, on a entendu que vous avez des besoins. On vous envoie eux parce que cette complémentarité de dons, vous ne l'avez pas dans votre église. Alors, on va vous envoyer cette équipe-là. Ils vont pouvoir vous enseigner là-dessus. Ils vont pouvoir vous aider à prendre soin d'un tel. Et puis, nous, on a des besoins financiers. C'est génial. Vous pouvez nous envoyer. Là, on vous envoie telle personne qui va récupérer. Et puis, on lit dans les autres lettres. Merci. On a bien reçu vos dons, c'est génial. Et il y a une dimension de l'Église avec un grand E qui, elle aussi, est indissociable de l'Église locale avec un petit E, parce que l'Église dans son ensemble ne peut fonctionner que quand l'Église locale saisit sa mission. Et notre mission en tant que chrétien, en tant que faisant partie de cette Église universelle, l'Église de Christ pour laquelle il reviendra son épouse, elle se réalise et elle est concrète au travers de l'Église locale. Ce n'est pas naturel de penser communauté, juste poser ça. Le monde nous crie individualisme, individualité, rêve, besoin personnel, accomplissement personnel. Toute notre société est tournée aujourd'hui vers ça. La Bible nous parle de communauté. Ce n'est pas naturel et c'est pour ça que je voulais le dire ce matin. Ce n'est pas naturel de penser communauté et ça nous demande un changement de mentalité pour nous engager mutuellement les uns avec les autres. Le mariage qui devient de moins en moins naturel aujourd'hui. J'ai choqué dans mon travail quand j'ai dit que j'étais à ma femme et que ma femme était à moi. J'ai choqué, je vous garantis, j'ai choqué. On m'a dit « Non, comment tu peux dire ça? Tu n'appartiens qu'à toi-même. » Faux. Faux. Faux, j'appartiens à mon père en premier. Mais je me suis donné à ma femme. Je me suis engagé avec elle. Je me suis engagé à rester avec elle jusqu'à la fin de mes jours. à construire notre couple, à nous épanouir ensemble. Et elle s'est engagée avec moi et c'est pour ça que ça peut marcher. Et dans l'Église, c'est la même chose. Nous avons besoin de penser communauté, de nous engager mutuellement les uns avec les autres. Alors, est-ce que c'est juste quelque chose qu'on fait par nous-mêmes ? Non, j'aimerais juste aussi rappeler ça, c'est que c'est l'Esprit qui donne l'unité. Et on a besoin de l'Esprit, on a besoin de lui pour ça. Parce que la finalité, ce n'est pas moi, la finalité, ce n'est pas nous, la finalité, c'est lui seul. Et ça, c'est ce que fait l'Esprit. L'Esprit, il ouvre nos yeux, l'Esprit, il nous fait lever de notre nombril. L'Esprit, il révèle le Père, il révèle le Fils. C'est ça que fait l'Esprit. Et nous avons besoin de l'Esprit. Et moi, je crois que plus nous allons accueillir l'Esprit au milieu de nous, plus cet Esprit-là va ouvrir nos yeux sur le Père et nous conduire les uns vers les autres. N'oublions pas ça. Nous nous retrouvons le dimanche matin, nous louons combien Dieu est puissant, combien Dieu est grand. Oui, nos yeux sont tournés vers lui. Mais à ce moment-là, au moment où nous faisons ça, nos cœurs, les amis, sont connectés les uns aux autres parce que Dieu nous amène les uns vers les autres. C'est ça que fait l'Esprit. Il y a des passages qui en parlent, qui disent que voilà, c'est à l'unité, à l'amour qu'on a ensemble, que Dieu est glorifié, que le monde comprend combien Dieu nous aime, combien Dieu est grand, combien il mérite aussi toute la gloire. Et j'aimerais juste terminer ce message en faisant un focus sur l'une des expressions les plus concrètes, finalement, du corps. C'est l'Église en petit groupe. Je vais passer 5 minutes là-dessus. L'Église en petit groupe. Alors, qu'est-ce qu'on entend par petit groupe ? Ben, y a les groupes de vie, par exemple. Que ça s'appelle groupe de vie, que ça s'appelle cellule, que ça s'appelle groupe missionnel, que ça s'appelle alpha, que... Il y a plein de formes de petits groupes possibles et imaginables. Mais l'Église en petits groupes, combien c'est important ? Pourquoi ? Est-ce qu'on se retrouve tous les jours ici ? Non. On ne se retrouve pas tous les jours ici. Est-ce qu'on est une Église hebdomadaire ? Je ne sais pas comment on dirait une Église. Ouais, enfin, vous m'avez compris. Est-ce qu'on est une Église d'un seul jour par semaine ? On est tous d'accord que notre réponse du cœur, c'est non. Et heureusement, on n'est pas une Église du dimanche. Et aucun de nous ne voulons ça. Mais j'aimerais nous interpeller concrètement. On a tous pas envie de ça. On a tous pas envie d'être une Église du dimanche. Mais si on y réfléchit bien, concrètement, vraiment, au fond, en réfléchissant et en nous remuant un peu ce qu'on a mis sous le tapis, là, est-ce qu'on se retrouve tous les jours dans les maisons pour rompre le pain ensemble, pour prier Dieu ? Est-ce qu'on va au temple ? Ensemble, louer le Seigneur ? Est-ce qu'on partage nos biens ? Je ne fais pas un appel à la communauté, on ne va pas construire un grand machin, vivre tous ensemble, mais si le Seigneur vous parle par rapport à ça, le Seigneur fait ce qu'il veut. J'aimerais juste nous interpeller là-dessus. Non, on n'est pas une Église du dimanche, et on est tous d'accord avec ça. Mais concrètement, on n'est pas non plus tout à fait une Église de tous les jours. On n'est pas non plus une Église de tous les jours. Il y a plus, les amis. Il y a plus. C'est là-dessus que je dis il y a plus. Je dis merci Seigneur parce qu'on n'est pas une Église que du dimanche, effectivement. Concrètement, il y a énormément de choses qui se font dans notre Église pendant la semaine. Je sais que vous vous appelez, je sais que vous priez les uns pour les autres, je sais qu'on se reçoit les uns les autres. Je sais qu'il y a énormément de choses qui se font en semaine. Effectivement, gloire à Dieu, merci. Mais plus, Seigneur, plus de concret, encore. Plus de concret. Invitons-nous davantage. Invitons-nous davantage. Appelons-nous davantage. Prions davantage les uns pour les autres. J'ai rêvé de toi. Est-ce que je peux t'appeler ? Est-ce que je peux prier pour toi ? Oh, on a pensé à vous. Est-ce que tu veux passer à la maison ? Je ne suis pas loin de chez toi. Est-ce que je peux passer ? Je me souviens, tu avais dit ça. Comment tu vas ? Voilà, tu en es où par rapport à ça ? Est-ce que ça va mieux aujourd'hui ? Est-ce qu'on pourrait venir, j'ai une question, est-ce qu'on pourrait juste ouvrir la parole ensemble parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas et je pense que toi, tu pourrais m'aider par rapport à ça. L'Église, c'est simple. Si vous attendez d'être enseigné et de tout recevoir de l'Église depuis ce morceau de plastique que j'ai devant moi, non, c'est pas ça l'Église. C'est pas celle-là qu'on voit dans le Nouveau Testament. C'est pas celle-là que les apôtres ont plantée. C'est pas celle-là qui répond pleinement à la mission. C'est aussi celle-là, mais pas que. C'est une Église qui multiplie sa vie en semaine. Et je vous encourage vraiment, là, on va rentrer dans un temps d'été. où les groupes de vie traditionnels vont s'arrêter. On reprendra l'année prochaine aussi de nouveaux groupes de vie, et je l'espère, beaucoup, beaucoup plus nombreux dans notre Église. Et l'année prochaine, j'aimerais qu'on n'ait pas 30% de l'Église qui soit dans des groupes de vie seulement. On se prive, les amis. On se prive d'une vie abondante. Alors on va multiplier ça et on va connecter les uns aux autres encore davantage l'année prochaine, parce que c'est absolument essentiel. Nous avons besoin de l'Église locale et nous avons besoin de ces petits groupes dans lesquels grandir, dans lesquels nous développer. Et je conclurai par ça. Nous avons chacun une course qui est personnelle. Paul, il en parle. Hein. Il dit, vous avez une course devant vous et on est appelé à remporter le prix. Mais est-ce qu'on imagine un coureur professionnel qui voudrait remporter une course seul aujourd'hui ? On dirait, il est fou. Et on a raison. Parce qu'un coureur professionnel, c'est une évidence aujourd'hui. Il ne remporte une course que parce qu'il a une équipe autour de lui, parce qu'il a un staff, parce qu'il a un staff médical, parce qu'il a un staff de coach, parce qu'il a un entraîneur qui lui apprend comment s'entraîner, comment développer ses capacités. Ça nous paraît une évidence dans le monde du sport. Ça nous paraît une évidence. C'est une évidence dans l'Église. Oui, Dieu me parle personnellement sur quelque chose qui m'est devant moi. Oui, Dieu a un projet pour ma vie, effectivement. Mais ce projet-là, il est connecté aux autres. Il n'est jamais, jamais déconnecté de ceux qui sont autour de moi. Et ceux qui sont autour de moi, c'est l'équipe qui me permet de remporter cette course. Tout seul, je n'y arriverai jamais. Et ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas son plan que nous ayons chacun notre course à courir, que nous soyons simplement attentifs à ce que Dieu nous demande de faire. La Bible est claire sur le fait qu'il me demande aussi d'édifier l'autre dans sa course et d'être édifié par un autre. C'est absolument capital de comprendre ça. Nous avons besoin d'être ensemble. Et on finit par ce passage. La Bible fait autorité. Je vais finir par ce passage. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Merci Seigneur. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Alléluia. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes cette demeure dans laquelle l'Esprit veut venir demeurer, veut venir habiter. J'aimerais juste vous inviter à ouvrir vos mains, levez-vous si vous voulez, et déclarer ensemble, Seigneur, nous reconnaissons cette parole de l'Écriture comme vraie, Seigneur. Nous reconnaissons cette parole comme vraie, Seigneur. Nous reconnaissons ces versets comme vrais, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es la tête, Seigneur, que tu es celui qui construit, celui qui bâtit l'édifice bien coordonné, Seigneur. Oui, nous croyons, Seigneur, que tout tend vers toi, que tout tend vers ta gloire, Seigneur, et non la nôtre, uniquement toi, Seigneur. Mais nous croyons, Seigneur, fortement que tu nous as plantés dans cette famille, Seigneur, que tu nous as rendus concitoyens des membres du peuple saint, Seigneur, que tu as fait de nous un peuple, Seigneur, comme tu as choisi Israël, Seigneur, tu as fait de nous un peuple, Seigneur. Et nous voulons répondre, Seigneur, à cet appel d'aller ensemble gagner les nations, Seigneur, d'aller ensemble gagner le monde entier, Seigneur, et que ça commence en nous édifiant les uns les autres et en servant et en nous laissant servir au sein de cette communauté, Seigneur, en bâtissant des relations solides, des relations profondes, Seigneur, qu'il y ait du plaisir, qu'il y ait du fun, qu'il y ait de la joie au milieu de nous, parce que dans une famille, c'est ça qu'il y a, Seigneur, afin qu'en toute chose, tu sois glorifié, Seigneur. Et que le monde puisse être touché, éberlué, ébahi, Seigneur, des relations que nous pouvons avoir ici, en toi, parce que c'est ce que l'Esprit crée au milieu de nous, Seigneur. À toi, toute la gloire. À toi, toute la gloire. Amen. Amen.